ICF.
C'est Grand Angle, bonjour à tous. Il était une fois, en chanson, une fois, F-O-I bien sûr. La musique, c'est le langage de l'âme, expression personnelle, intime, ou refrain partagé par la foule. Le chant, c'est beaucoup plus qu'un texte et des notes. Il y a une magie qui opère. La musique, c'est l'écho chantant de notre vie intérieure, de notre foi en l'homme, en l'autre, en Dieu. Comment la musique peut-elle devenir spirituelle? Comment saisit-elle les assemblées à l'unisson? Et qu'est-ce qui inspire les auteurs, les compositeurs, les interprètes? Alors, nous en parlons avec mes invités. Robert Migliorini, bonjour.
Bonjour Christophe.
Vous êtes journaliste, assomptionniste et bien connu des auditeurs, puisque vous animez chaque dimanche à 8h03, très précis, un air qui me rappelle, où vous mettez en parallèle deux chansons. Une chanson plutôt du répertoire profane et une autre du répertoire religieux.
Exactement.
Et puis cet été, on a pu vous suivre avec Martin Ferron pour Chanter, c'est prier. Une belle série où on a retrouvé les voix de ce patrimoine de la musique spirituelle et religieuse. Olivier Landron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, auteur d'un imposant catholicisme français au rythme du chant et de la musique. Un ouvrage paru aux éditions Paroles et Silence. Avec aussi l'université de l'Ouest,
voilà,
catholique de l'Ouest. Un grand parcours sur le champ religieux du 20e et 21e siècle, en tout cas pour les débuts. Et puis Alexia Rabé, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes franco-malgache.
Oui.
Et puis vous chantez. Absolument. Depuis longtemps. Vous avez fait de la musique,
très
du conservatoire.
Oui.
Et puis vous êtes... plus connue maintenant parce que vous avez aussi été candidate à The Voice, saison 3.
Tout à fait.
Dont vous nous raconterez quelques échos sans doute. Johan Frégé va entrer à l'instant dans le studio. Il arrive. Il est aussi chanteur, auteur, compositeur, interprète. Il vient de sortir son premier album quelques heures avec moi. Et lui, il était gagnant de The Voice, mais pas contre vous, puisque c'était la saison 2, juste l'année d'avant. Il était une fois en chanson. C'est le thème du jour de Grand Angle et c'est sur RCF.
Grand Angle, RCF, en partenariat avec Bayer Press.
Ça vient de là-haut, Johan Frégé. Bonjour, vous êtes arrivé. C'est une chanson importante dans votre premier album.
Déjà, bonjour à tous.
Bonjour. Et puis, racontez-nous déjà cette chanson. Puis après, on va parler de The Voice, de la chanson. Et comment cette chanson, elle fait écho aussi à ce que nous vivons de l'intérieur?
Alors, cette chanson, elle fait profondément écho avec déjà mon expérience personnelle de la musique. C'est-à-dire que j'ai découvert le gospel lorsque j'avais 15 ans. À cette époque, j'avais pas la foi en Dieu, je recherchais pas consciemment une paix ni une joie intérieure. Et c'est justement en chantant cette musique que j'ai commencé à ressentir vraiment ce qu'on peut appeler la grâce, particulièrement quand je chantais le chant Amazing Grace, voilà, qui a été mon premier solo dans ma chorale de gospel, qui était une chorale très importante du sud de la France avec Emmanuel Job, qui a lui aussi participé d'ailleurs à The Voice saison 2, qui est un des pionniers dans le gospel africain en France. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à ressentir que la musique, c'est pas faire des jolies notes, c'est beaucoup plus en fait que ça, c'est se laisser traverser par l'esprit. Et c'est là où vraiment on a la joie de la musique, parce que sinon on n'en a que l'apparence. Et ça n'a aucune signification, en fait. Mmh. Parce que la musique est vraiment là pour nous élever intérieurement, élever les gens. Après, qui veut prendre, prend. Qui ne veut pas, ne veut pas. Parce que l'amour, on ne peut pas le forcer aux gens. On ne peut que le proposer. Donc, cette chanson, ça vient de là-haut. C'est une manière de rappeler aux gens, voilà, si j'ai gagné, c'est grâce à Dieu. Et c'est aussi grâce à vous. Parce que, voilà, Dieu s'exprime à travers les gens. Cette grâce, cet amour est dans la chanson. Je dis à un moment, entre un regard et un soupir, il n'y a qu'un mot à dire. Merci. Donc voilà, je remercie autant la vie que les gens qui m'ont soutenu dans ce titre.
Mmh. Alors on va revenir à cette expérience de The Voice pour tous les deux, qui a été un moment sans doute très très fort. Robert Migliorini, quand on entend « ça vient de là-haut », on se dit, tiens, il y a peut-être une inspiration effectivement spirituelle, religieuse, mais c'est en même temps un chant que tout le monde peut écouter et qui rencontre tout le monde. Il n'y a plus de frontières entre profane et religieux, spirituel?
Il y a la frontière qu'on aurait décidé de poser, mais en fait, il n'y a pas de frontière. Et on s'aperçoit quand on... Justement, on écoute tous ces textes, toutes ces musiques, on revient très vite à des thèmes qui sont les nôtres, Radio Chrétienne et autres titres. Les ponts sont fréquents. C'est une commande de Jacques, votre auteur, c'est une commande que vous avez faite à l'auteur?
Alors, c'est Jacques Vénéroux,
oui,
Oiseau,
voilà,
donc
très connu.
J'ai eu cette chance-là. Et non, justement, c'est pas une commande que j'ai faite à l'auteur, c'est ça qui est beau. C'est que c'est une commande que la vie lui a faite, qui m'a été passée après. Parce que ce qui est très drôle, c'est que c'est Garou qui m'a dit j'ai un titre, et ce titre est pour toi, j'ai des frissons de la tête aux pieds quand je l'écoute. Et c'était Ça vient de là-haut, qui correspondait exactement à ce que je ressens. Donc c'est là où on voit que, voilà,
moi, quand les choses un très beau cadeau. Passer,
voilà. J'explore régulièrement un peu les nouveautés et je trouve beaucoup de correspondances, actuellement peut-être plus qu'à une époque. Mais n'oublions pas, quand on en a entendu Brassens avec la chanson pour l'Auvergnat ou Brel, on retrouve tous les fondamentaux et les connivences et les ponts qu'on souhaite.
Alexa Rabé, alors cette expérience de The Voice, vous allez nous en parler, c'est tout récent puisque c'était cette année. Comment on va? Alors vous, déjà, vous pratiquiez aussi le chant déjà dans des assemblées protestantes que vous animiez. Vous avez une formation classique. Et puis, il y a ce concours qui se présente aussi. Et ça change quelque chose quand même dans le parcours?
Ça change d'abord parce que... bon, moi, c'est vrai que je suis née dans l'église. Donc, l'église, la musique dans l'église, tout ça, ça a toujours fait peu partie de mon univers. C'était un peu une évidence. Et bon, quand on commence à entamer une carrière artistique, on se lance simplement à faire de la musique dans des environnements différents, face à des publics qui sont différents. Les gens participent, le public participe, mais de manière complètement autre. Et bon, c'est vrai que The Voice, ça m'est un peu tombé dessus, en fait. Hein, c'est pas moi qui l'ai vraiment cherché.
Mais dis donc, il y a beaucoup de choses qui viennent de là-haut, alors.
Ouais, absolument. et donc, bah, c'est vrai, je l'ai pris comme une opportunité, comme une expérience à prendre, parce que je pense que voilà, c'était une bonne porte à enfoncer. C'est vrai que ça a été... Je pense que il y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup marqué, c'est que tout cet environnement où on se dit ça n'est qu'un jeu, mais au final on se prend quand même beaucoup aux règles du jeu, et ça très très rapidement, ça peut tout de suite bouleverser beaucoup de choses. Mais ce que j'ai trouvé très beau, c'est que c'est une expérience qui m'a vraiment apprise à réfléchir sur ce qui était fondamental pour moi dans la vie. Me dire, la musique certes c'est important, gagner c'est très beau, perdre on n'aime pas, moi je ne suis pas allée jusqu'au bout de l'émission.
Puis le succès malgré tout,
et
hein,
voilà, puis il y a tout ce phénomène de médiatisation vraiment de masse est très très amplifié. Sur le moment c'est très agréable, je pense qu'il faut en profiter, donner, hein, voilà, faut quand même pas faut quand même profiter des bonnes choses jusqu'au bout. Mais c'est vrai que se dire, bon, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, finalement, qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, parce que moi, il y a du coup beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment est-ce qu'il fallait faire, il y a beaucoup de personnes qui demandaient des conseils, etc. Mais fondamentalement, je pense que la vie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, en fait. Et les enjeux qu'il y a là, les règles du jeu qui sont là, sont peut-être... bien, mais elles ne définissent pas qui nous sommes, surtout en tant qu'artistes.
Voilà, c'est un bon moment, mais c'est aussi, Johan, on a l'impression, un tremplin, parce qu'il faut encore travailler, j'imagine, que pour après faire l'album, mais il y a beaucoup de travail après, il ne suffit pas d'avoir gagné The Voice pour que tout soit fait.
Bah, oui, bien évidemment, parce qu'être un artiste, ce n'est pas The Voice qui nous a rendu artistes. Déjà, c'est un don. Donc un don, c'est super, mais ça s'entretient, ça doit se travailler, ça doit se respecter, ça ne doit pas s'utiliser de n'importe quelle façon. Moi, je ressens complètement ce que tu dis, Alexia, dans le sens où c'est une expérience qui peut énormément chambouler et ça peut nous faire perdre nos repères aussi. Moi, je suis très très heureux parce que j'ai réussi quand même vraiment jusqu'à la fin à préserver mon intégrité artistique et dans le message, c'est-à-dire que pour faire The Voice, ma condition, j'étais allée les voir, je leur avais dit au début, la seule condition pour que je fasse cette émission, c'est que je puisse choisir les contenus de ce que je chante, et c'est ma seule condition, et je leur avais dit, je n'hésiterai pas à quitter l'émission si ce n'est pas respecté, parce que je suis un chanteur de gospel avant tout et je veux pas des choses qui sont contre valeur. Donc je sais que quand je leur ai dit ça, ils m'ont regardé un peu comme si j'étais un extraterrestre, parce que personne ne leur dit ça. En fait, malheureusement, les artistes aujourd'hui sont prêts à tout pour le succès, pour la gloire, la reconnaissance. Et c'était pas du tout mon cas. Moi, j'ai toujours dit jusqu'à la fin, je viens là pour donner tout cet amour que j'ai au fond de moi. Si les gens le veulent, ils le veulent. S'ils le veulent pas, ils le veulent pas. Mais je changerai pas, j'abandonnerai pas mon intégrité. Et ça, pour tout artiste, voilà, comme le disait Alexa, c'est le plus important. Il est là, en fait. C'est pas de réussir extérieurement ou pas, c'est de réussir intérieurement. Est-ce que à l'intérieur de nous, on a cette paix, on a cette joie qui se répand ou pas? Eh bien, c'est ça qui est important. En fait.
Mmh. Olivier Landron, dans l'histoire du chant, notamment du chant catholique, puisque c'est le travail que vous avez mené, il y a une très grande variété d'inspiration, mais vous sentez toujours, aux différentes époques, cette conviction dont nous témoignent Johan et Alexia?
Oui, bah, dans le catholicisme, il y a énormément... le rapport entre le catholicisme et le chant en général est à la fois complexe et en même temps très riche. Et si, pour aller très très vite, mais si on prend le début du XXe siècle, on a par exemple la grande référence, l'une des grandes références, c'est bien sûr le grégorien, donc c'est le chant latin. En même temps, on a toujours à côté, parallèlement, le chant populaire, enfin ce qu'on appelle les cantiques, qui sont en langue nationale. Et tout ça, ça se chevauche aussi. Il y a parfois des affrontements, bien sûr. On est attaché plus à tel ou tel type de chant. Ça peut aussi se traduire en complémentarité. Il n'y a pas que des conflits. Mais
on est peut-être plus tolérant maintenant qu'il y a quelques années, ou au contraire, il y a bien des chapelles encore ?
Non, je ne crois pas, parce que la tolérance n'est pas forcément de mise. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier...
Faudra la chanter alors quand même.
Avec les compositeurs, les interprètes, on a affaire à des artistes, et donc des personnes, je dirais, qui ont des engagements, des convictions, et qui sont des fois tout à fait... C'est bien, mais en même temps, qui sont prédominantes. Et...
chacun sa voix.
Parfois, oui. Et parfois, on n'est pas toujours en capacité d'écouter ou d'entendre l'autre. Mmh. Ça aussi, c'est une réalité.
Eh bien, on va écouter une autre voix, venue de The Voice aussi, qui va nous surprendre.
Carry on, and you'll finally see the truth that I hear.
Et oui, beaucoup d'applaudissements, beaucoup de succès pour Sœur Christina. C'est la gagnante italienne de la version The Voice. Alors, Robert Migliorini, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Sœur Christina Ciuccia, 26 ans, religieuse ursuline, qui est arrivée dans le concours comme
un ovni, un comète, un spoutnik,
je sais pas comment il faut dire, comme une religieuse, en habit de religieuse ursuline, et qui, au fil de, des épreuves, a réussi à conquérir le public qui l'a sauvé dans une des dernières compétitions. Alors, elle avait un coach rappeur, j'ai oublié son nom, peut-être que vous savez. Et qui a expliqué après coup ce qui s'est passé dans les coulisses. Ça n'a pas été facile, toujours pour lui, qu'une religieuse en habit chante, gagne, s'installe. Il a eu affaire à forte partie dans les coulisses pour expliquer ce qui se passait, parce que certains disaient, ça y est, l'église revient, on peut plus être tranquille, etc. Mais artistiquement...
On aurait peut-être eu du mal à voir une religieuse dans la version française, non ?
Alors, je crois que la prochaine émission de M6, The Rising Star, cherchait désespérément une religieuse qui pourrait
c'est très tendance, alors.
Oui, c'est très tendance. Alexia, il faudrait remettre aussi des habits. Ouais,
je précise tout de suite, Alexia ne porte pas le voile.
Voilà. Je termine ma théologie d'abord, on verra
oui,
après.
C'est plus sérieux. Mais en tout cas, l'équipe de production de M6 cherchait, pas l'équivalent, mais de créer aussi la surprise. Pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas trouvé. Mais peut-être que d'ici 15 jours, ils auront trouvé. Parce qu'il y a plusieurs candidates possibles.
Ça veut dire que, religieuse ou pas, ce qui est important, c'est la voix, c'est la vie intérieure dont nous parlait Johan et Alexia.
La ferveur, on va dire, la façon de communiquer. Et puis, la voix, effectivement, mais l'intensité. Quand elle a gagné, elle a demandé à tout le monde de réciter un Notre Père.
C'était magnifique.
Et tout le monde l'a fait sans se dire non, pourquoi, jusqu'où. Hein, vous avez vécu ça.
Johan, Alexia.
Et vu sur Internet, je ne sais combien de millions de fois. Enfin, c'est parti très vite.
J'ai adoré cette intégrité qu'elle a eue. C'est-à-dire, en fait, ce que j'ai aimé avec Sœur Christina, c'est que tous les gens qui ont eu des traumatismes à cause de certaines choses négatives qui sont faites à travers les églises, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des êtres humains. Voilà, on veut s'approcher de Dieu, mais après, on sait pas forcément une réalité à tous les moments. Elle a vraiment, je pense, réconcilié aussi beaucoup de gens avec la vision qu'ils pouvaient avoir du christianisme, dans le fait où Dieu est amour, Dieu est joie, et elle était tellement pleine de joie et d'innocence, on aurait dit un enfant. Et Jésus dit qu'il faut redevenir innocent comme des petits enfants. Je lui dis chapeau, parce que j'imagine que ça n'a pas dû être facile pour elle non plus, et que de la part du Vatican et de tout ça, elle a dû avoir des critiques très très fortes, et j'admire vraiment son courage, son intégrité, autant par rapport au Vatican que par rapport à la société, parce que c'est... on reçoit des critiques quand on est intègre, dans tous les cas.
C'est sûr qu'il y a une part de succès, mais aussi sans doute de critiques, et qu'il faut parfois accepter. Alexia, vous veniez très clairement du champ aussi où vous participez à des rassemblements religieux. The Voice, on le savait. Et en même temps, ça a posé problème ou pas ? Ou alors vous étiez un petit peu comme un aiguillon ? Vous les avez un peu surpris ?
Moi, en fait, j'avoue...
Vous n'étiez pas là-bas pour prêcher déjà. Hein. Ça,
non,
c'est très
d'abord,
clair, il faut
non,
le dire.
Oui, voilà. C'est... moi, j'avoue, j'ai quand même eu certaines critiques... que ce soit verbal ou par internet, plus par internet parce que c'est très facile de se cacher derrière son écran. Voilà, exactement. De personnes qui justement considéraient que j'avais pas ma place et qu'il fallait absolument choisir entre le chant l'église et le chant profane, et que voilà, il faut absolument choisir entre les deux. Moi, je pense que d'abord, il n'y a aucune incohérence à partir du moment où on est bien dans ses baskets et qu'on l'assume très bien, ce qui est mon cas, donc il n'y a pas de souci. Et puis, je pense que c'est surtout le fait que moi, ma foi, elle est en moi, et il n'y a aucune raison pour qu'elle disparaisse juste parce que je m'exprime artistiquement dans un environnement qui est autre que celui de l'église. Et au contraire, je trouve que c'est un super bon moyen pour justement faire vivre la foi et la partager les valeurs dans lesquelles je crois de manière autre à un public aussi que peut-être je n'aurais pas pu toucher de cette manière-là.
Je peux raconter une anecdote, peut-être qu'on écoutera tout à l'heure le psaume 23 de Daniel Darc, qui à l'époque il venait d'un groupe vraiment pas vraiment religieux, et tous les journalistes rock qu'il rencontrait lui disaient mais c'est hallucinant, comment vous pouvez chanter un psaume en français, d'habitude Dieu on n'en parle que chez les chanteurs anglais. C'était en 2004.
Ah non, je croyais que vous vouliez poursuivre. Olivier Landron, cette frontière justement entre religieux et profane, elle existe moins. On imagine plus maintenant des chanteurs qui sont des deux côtés ou ça reste un peu quand même l'exception?
Oui, moi je pense que ça évolue un petit peu parce que on a eu à partir des années 1970 ce qu'on a appelé les chanteurs en église. Bon, ils sont des laïcs essentiellement, bon, il y a parfois des prêtres, et qui ont commencé à chanter en église. Alors évidemment, c'est dans le sillage du Père Duval, hein, ce jésuite est un des pionniers de ce point de vue-là.
On écoutera un vieux souvenir
tout
à l'heure.
Au niveau du croisement, il y a des choses intéressantes. Moi j'en ai un petit peu parlé dans mon ouvrage, mais on a tout ce qui est rock chrétien. Le rock chrétien aux États-Unis est extrêmement répandu, beaucoup plus qu'en Europe occidentale. On a dans le hit parade aux États-Unis, le rock chrétien est extrêmement bien placé. Nous, on n'a pas tout à fait, je dirais, la même culture et ça a beaucoup moins plu.
Le hit parade reste plus laïque, vous voulez dire, plus laïcard en tout cas.
Oui, certainement, en France, oui. Alors après, vous avez des gros, je pense, c'est arrêté maintenant, mais qui était lié à la communauté des Béatitudes, qui était une communauté charismatique. Il y a un groupe de Toustos qui était un groupe de rock chrétien. On pense à Daniel Fasserias. Qui est très intéressant parce qu'il a été un des pionniers de ce rock chrétien en France. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a fait un doctorat en musicologie sur les troubadours. Alors, comme il est du sud de la France et de l'Ariège, il a, lui, dans sa thèse, il a soutenu en Sorbonne, il me semble, il a considéré qu'il y avait des relations à établir entre les troubadours du XIIe siècle et les pionniers du rock des années 1960. Alors c'est une thèse qui a été assez bien reçue. Bon, on peut, ça fait un peu peur hein, des fois de croiser
des
rapprochements aussi saisissants sur plusieurs siècles. Mais ça montre que le rock chrétien, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui non plus. Mmh. Et là, on a des croisements intéressants.
Mmh. Johan, vous parliez de l'importance du gospel. Vous vous sentez, vous, un troubadour peut-être un peu d'aujourd'hui pour parler des choses que les gens vivent et sentent aujourd'hui?
Dans ma tête, je me dis pas que je suis un troubadour parce que ça serait un petit peu étrange de me dire ça à l'intérieur, mais en tout cas, le fait qu'on ait tous des messagers potentiellement de valeurs positives, qui sont toutes spirituelles parce que pour moi, toutes les valeurs positives, c'est de Dieu que ça nous vient. Et qu'en tant qu'artiste, on est là pour les transmettre. Pour moi, c'est essentiel. Pour moi, tout artiste a une mission. Pas dans le côté de se faire un égo trip et de se dire j'ai une mission et je sais pas. Non,
oui,
dans le fait qu'on a une responsabilité et que en tant qu'artiste, on utilise un outil qui s'appelle les médias, qui a donc un rayonnement sur des milliers, voire des millions de personnes. Donc on peut aussi faire beaucoup... envoyer des mauvaises choses aux gens. Et il faut qu'on ait conscience, chaque artiste, de notre responsabilité et de dans quel état on fait ça. Parce que quand on voit l'effet de la musique, certaines musiques peuvent avoir sur les jeunes. Et comme ça a une influence, voilà, même Platon déjà à l'époque disait qu'il y a une énorme relation entre la musique et la société, c'est plus que jamais d'actualité. Quand on voit les clips aujourd'hui, des choses donc je pense qu'un artiste, il doit prendre conscience de ce pouvoir d'amour qu'il a en lui et prendre la responsabilité qui est la sienne.
You saved me, Lord. I give up that I am.
Everyday. C'est Alexia Rabé.
Oui.
Premier single.
Premier single.
Racontez-nous l'histoire.
Alors en fait, c'est un titre que je connaissais déjà. Enfin, c'est un titre qui a été écrit et composé au début des années 2000, donc qui date d'il y a un petit bout de temps, écrit par un artiste chrétien australien, Joel Houston, qui fait partie d'une très grosse église qui s'appelle Hillsong, et donc qui est justement dans cette mouvance de pop rock chrétien qui se généralise beaucoup en ce moment, en tout cas dans le milieu anglophone, et puis ça finit par arriver en France aussi. Donc ça faisait un petit bout de temps que j'avais des arrangements dans la boîte comme ça, puis je m'étais dit pouf, ouais, qu'est-ce que j'en fais. Et du coup, The Voice, c'était quand même une superbe opportunité pour pouvoir le partager avec, avec le plus grand nombre.
Donc, et ça marche.
Donc du coup, à peine fini les premiers enregistrements pour The Voice, hop, voilà, j'ai rassemblé une équipe, on a enregistré, j'ai envoyé le mix aux US, c'est revenu, pof, et voilà, ça y est, la galette était sortie en l'espace de quelques semaines.
Ouais. Et c'est pas fini.
Alors, c'est pas fini. Qu'est-ce qui s'annonce? Alors, dites-le, profitez, si vous pouvez nous le dire déjà.
Absolument, oui. J'ai un EP qui va sortir là à mi-octobre, qui s'appelle Alpha. Et donc, c'est un mélange de compos original et de reprises aussi. Voilà, moitié-moitié. Et pareil, j'ai travaillé dessus là tout l'été, et donc avec mon équipe. Et j'ai beaucoup plaisir et j'ai hâte de le partager avec tout le monde.
Eh ben on l'écoutera bien volontiers sur RCF.
Le single, il est juste trop, trop bien.
Oh,
c'est ce
merci.
Que je disais en dehors du micro, mais je le redis parce que c'est juste trop,
merci,
trop beau.
Merci, merci.
Avec les compliments de Johan. Vous êtes, on l'a dit, vous êtes malgache, vous revenez, vous y étiez encore ce week-end.
Je suis rentrée fraîchement hier soir, oui.
Voilà. Vous sentez, quand vous êtes là-bas, vous chantez différemment ou finalement la musique n'a pas de frontières?
C'est vrai que le style musical et le répertoire est différent. La musique malgache, en tout cas celle qui sort vraiment de la terre et fait partie de ce qu'on appelle du genre musique du monde. Bon, il y a quand même des artistes malgaches qui se sont plus ou moins distingués dans la pop ou surtout dans le jazz. La musique fait partie de la culture et de l'identité du malgache, c'est-à-dire que la musique accompagne tous les événements de la vie, accompagne le quotidien. Moi, il y a très peu de nuits où j'ai pu dormir d'une traite parce que, en plus, en ce moment, c'est une période qu'on appelle Famadine, c'est la saison du retournement des morts. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont des moments très très festifs, avec de la musique qui va dans la continuité jusqu'au petit matin. Donc, toujours dans les villages, tout autour, il y a toujours de la musique. Donc, c'était parfois assez difficile de dormir. mais c'est vrai que, bon, moi, je suis née dans une famille de musiciens, ma mère était chanteuse, mon père était accordéaniste, je suis issue d'une lignée de manufacteurs d'orgue du côté de ma mère.
Ouais, donc on l'a dit, vous avez eu une formation classique aussi.
J'ai une formation classique, voilà, on est beaucoup pianistes dans la famille. Donc c'est vrai que c'est ne pas faire de musique, disons que ça aurait été assez quand même incroyable, assez étonnant.
Johan, vous aviez aussi une formation musicale, c'était aussi un rêve de devenir chanteur?
Alors en fait, j'ai eu la chance d'avoir j'ai la chance, puisque c'est toujours le cas, d'avoir mon père qui est auteur, compositeur et interprète, donc il joue du piano.
Bon, il a même écrit une chanson pour vous.
Voilà, qui s'appelle Les mots qu'on ne peut pas dire, qui parle du bégaiement dans mon album. Voilà, qui c'était important pour moi. Enfin bon, et en tout cas, j'ai baigné dans cette atmosphère musicale depuis que j'étais petit. Je me suis mis au violon quand j'avais 7 ans. J'avais vraiment envie, j'adorais la musique classique en fait. J'adorais Mozart, Vivaldi, Bach et tout ça. Donc j'ai fait du violon pendant 3-4 ans. Il me disait que j'étais très doué, mais que je travaillais pas. Donc ma prof a fini par devenir vraiment folle avec moi. Et j'ai fini par arrêter parce que ça m'énervait d'énerver ma prof. Donc j'ai arrêté. Et c'est quand je me suis arrêté de faire du violon que je me suis mis à chanter. Et donc là, voilà, plus je me suis mis à chanter. Et puis bon, avec la dimension que on ne bégaye pas en chantant. Donc ça, forcément, étant donné que j'ai eu un bégaiement très fort jusqu'à mes 15-16 ans, ça a été important pour moi.
C'est une sorte très, très de revanche.
Non, pas du tout. De libération. Non, non, il n'y a aucune revanche, moi, quand je chante.
Et d'ailleurs, ça. Vous vous engagez aussi à aider les personnes qui souffrent de bégaiement.
Je suis parrain de l'association Parole Bégaiement, qui est la plus grosse association en France. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 650 000 personnes qui ont le bégaiement, quand même.
Et bien qu'ils se mettent à chanter, en tout cas, on devrait tous chanter, ça ferait tous, ça nous ferait tous du bien.
Qu'on chante faux ou pas, chantons.
Voilà. C'est vrai que le chant libère, Robert.
Il libère, oui, à tous les niveaux, corporellement, mentalement, spirituellement. Le fait aussi qu'on soit en groupe, le fait qu'on ait une communication avec un public, ça libère de bien des peurs. Je crois que vous n'êtes pas les mêmes, les artistes, dans la vie et en face d'un public ou sur scène. Je pense que ça va aussi dans ce sens-là.
Mmh. Olivier Landron, ce besoin de chanter, c'est aussi très important en termes liturgiques. C'est un mode d'expression privilégié.
Oui, parce que le, y a pas de liturgie sans, sans chant et musique. C'est intimement lié, ça, je pense, dans toutes les religions, le christianisme, bien évidemment, le catholicisme, bien en particulier, mais c'est vrai pour toutes les religions, je pense. Et une dimension entre le sacré, le chant et la musique est essentielle. Alors.
Grand angle, Christophe Héning.
Olivier Landron, vous vouliez poursuivre, mais on avait juste une petite virgule à placer.
Voilà, juste une petite, dans le prolongement de ce que disait Robert Migliorini, à propos de, justement en rapport avec la question que vous posiez aussi, à propos de la, du chant qui libère. Et je pense à une réflexion du frère André Gousse, dominicain, qui est bien connu parce qu'il a énormément développé
énormément
le chant,
chant.
Voilà, en particulier autour de l'abbaye de Sylvanès dans l'Aveyron, dans le sud d'Aveyron.
Et
qui trouvait dommage que souvent dans les églises il y ait un certain nombre de bancs, enfin que les finalement que les chaises, les bancs disposés de manière assez stricte finalement empêchent les fidèles de bouger et de s'exprimer par le chant. Et c'est vrai que quand on a des assemblées où les chaises sont plutôt disposées de manière concentrique, ça libère peut-être davantage.
Ça bouge un peu
quand
plus.
On voit des chaises bien aligné devant. Enfin, ça, c'est...
On va en parler à Rome alors. Hein.
Alors il va falloir changer l'aménagement des églises. En tout cas, The Voice, ça n'empêchait pas le public, même s'il y avait des gradins, de participer quand vous chantiez. Comment vous avez choisi les chants que vous avez présentés ? Parce que à la fois, j'entends bien ce que vous disiez, Johan, c'était des chants auxquels vous teniez. Et en même temps, il y avait un aspect de concours, donc il fallait aussi l'emporter pour convaincre le public. C'est ce que vous disiez, ce sont d'abord des chants qui vous tiennent à cœur.
Moi, disons que ça a été quand même une difficulté tout au départ, parce qu'on se retrouve avec toute une liste de morceaux imposés, qui est quand même, et la liste est quand même assez imposante. Oui. On a le choix de pouvoir présenter d'autres titres hors liste, hors concours. C'est vrai que moi, de tous les titres que j'ai proposés, il y en avait, peut-être un, deux qui étaient connus. C'est vrai que moi aussi, je rejoins ce que disait Johan par rapport au fait que chanter, c'est quand même... Moi, j'ai
une
comparaison
soi.
Un peu crue, c'est un peu se mettre à nu, en fait. Donc, c'est sûr que c'est autant choisir quelque chose, un morceau d'abord avec lequel on est à l'aise, et puis qui nous parle, qui nous fasse plaisir. Et c'est vrai que, bon, moi, n'étant pas une très, très, très grande connaisseuse, je le reconnais, par exemple, du répertoire de la variété française, c'est vrai que choisir des morceaux en langue française, c'était assez compliqué pour moi. Pour les morceaux anglophones, c'est pareil. Moi, j'avoue que je ne suis pas forcément pour les gros blockbusters, même si on a certains que j'apprécie beaucoup, d'un point de vue musical aussi. Hein. Mais c'est vrai que de tous les morceaux que j'avais proposés, c'était toujours quand même plusieurs minutes de discussion et de réflexion. Ah oui, mais on ne sait pas, mais alors celui-là, il n'est pas connu. Et parce qu'évidemment, il y avait plein d'enjeux auxquels moi, je ne pensais pas forcément. Il faut que voilà, le public, il faut que ça plaise, il faut que ce soit connu, etc. Donc c'est vrai que moi, ça a toujours été plusieurs minutes à chaque fois de discussion avec la production pour vraiment s'arrêter sur un titre au final. Quoi.
Mm-hmm. Johan, même chose pour le choix, c'était toujours un peu compliqué, mais
alors, en fait,
le souhait de parler de soi.
Oui, pas parler de soi. En fait, les différents thèmes que j'ai abordés à travers les morceaux que j'ai faits, j'ai commencé avec déjà un morceau qui me tenait beaucoup à cœur, qui était « The Greatest Love of All » de Whitney Houston, qui dit que le plus grand de tous les amours est à l'intérieur de nous, qu'il faut préserver les enfants et tout ça. Ce que je voulais, c'est que dès le début, les gens sachent qui je suis et ce pourquoi je suis là. Je voulais pas qu'il y ait de malentendu, en fait. Parce qu'après, une fois que le malentendu s'installe, si on n'est pas à soi, les gens, ils nous enferment dans un rôle. Et après, pour en ressortir, ça peut être très compliqué. Il y a beaucoup d'artistes qui sont croyants notamment qui disent bon je vais faire ce compromis et après je redeviendrai moi, mais en fait c'est pas sincère de se dire ça, c'est maintenant qu'il faut être soi, parce que après on peut pas savoir les conséquences, pas que pour nous mais pour les autres. Donc voilà, ça a été ça en fait le combat à chaque fois, c'était rester dans ce qu'on ressent au fond de soi, même si autour bon voilà. Mais en l'occurrence ça s'est bien passé avec la production parce que j'avais mis les choses au clair au début. Par contre j'ai eu la même difficulté que toi au début avec cette grande liste dans laquelle il fallait choisir. Je me souviens recevoir cette liste où il y avait 200 chants en français et 2 chansons en anglais. Il fallait en choisir 20 en français, 20 en anglais, eh bien, il fallait le faire en une semaine. Moi, j'ai dit que bah, j'avais un problème avec, pour me connecter à Internet, ça marchait pas. En fait, j'ai mis un mois et demi. J'ai mis un mois et demi et j'ai trouvé 8 morceaux en français et 8 morceaux en anglais. Parce que pour que ça aille vraiment avec les valeurs que je défends, j'avais beaucoup de mal, en fait, parce que voilà.
On en a parlé tout à l'heure de Daniel Darc qui chantait le psaume 23, surprise. Psaume 23, interprété par Daniel Darc, le rocker. Alors Robert Migliorini, c'est une surprise de l'entendre comme ça. Ça fait penser aussi à la Bachung qui nous avait chanté le cantique.
Ouais, le cantique des cantiques, introduction Bayard d'ailleurs. Bachung et Daniel Darc d'ailleurs ont tourné ensemble. Daniel Darc s'est arrivé comme ça, une surprise en 2004, complètement inattendu. Et on a essayé de savoir ce qui s'était passé chez lui. Donc il a adapté le psaume 24 à partir d'une traduction de la Bible Second. Et lui-même a changé quelques mots, mais ça a fait vraiment figure d'événement. Et je crois encore, quand on l'écoute aujourd'hui, surtout qu'il est mort l'année dernière, brutalement, quand on l'écoute aujourd'hui, on comprend toute son histoire, on retrace un peu tout son itinéraire.
Ça veut dire que la Bible, en tout cas, la question religieuse travaille les artistes, même profanes, enfin, touche quelque chose de cette vie intérieure ?
Sans arrêt, je dirais. Peut-être que nous, on ne sait pas l'écouter, forcément, ou être disponible. Là, le disque a été fait avec Frédéric Lowe aussi. Il faut voir le travail, le binôme qui a fait ce travail. Et il poursuit sa carrière. Je crois qu'il a marqué une étape en 2004.
Olivier Landron, votre ouvrage est très documenté. On retrouve énormément de chanteurs que les auditeurs de RCF connaissent. En même temps, on a l'impression quand on entend aussi, je ne sais pas si Daniel Darc y est, mais vous pourriez mettre encore beaucoup d'interprètes. Où s'arrête la frontière ?
Bon, après, on pose des critères automatiquement. Donc, il n'était pas possible de parler de tout le monde. Hein. Donc, les critères, eh bien, c'était ceux d'un minimum d'audience, je dirais, et des personnes qui aient pu incarner un courant. Ça a été mes critères de choix. Pour que le discours puisse aussi avoir une cohérence. Sinon, effectivement, dans toutes les familles, on chante. On a des compositeurs dans pas dans toutes les familles, mais enfin dans beaucoup de régions de France et d'ailleurs. Donc effectivement, là, il faut s'arrêter à un moment donné à des critères de choix.
Vous avez l'impression que la création musicale, spirituelle, religieuse se porte plutôt bien? Parce qu'il y a des difficultés de support, de diffusion.
Oui, mais... ça c'est tout à fait évident. Alors en France, oui, on continue de produire énormément de chants, soit des chants religieux sans charge, des chants plus liturgiques. Oui, la France est un pays où on produit plus que d'autres pays catholiques d'Europe. Alors ça, ça serait trop long d'expliquer peut-être pourquoi. Mais enfin, parfois on s'est un peu affranchi d'une certaine tradition. Ça, c'était plutôt le cas dans la préconcile. Après, on est revenu à une tradition peut-être préconcilière. Disons qu'en France,
une grande diversité.
Ce qui m'a frappé, c'est quand même... Alors, il y a eu énormément de conflits, on ne va pas les taire, mais en même temps, énormément de créativité. Je pense que l'âme française, voilà, dès les années 50, même dans l'avant-concile, a été tournée vers énormément de création. Et on parlait beaucoup du gospel, du jazz. Il y a eu comme deux hommes qui ont énormément marqué, deux prêtres, le père Maurice de Bézieux, qui est un fils de la charité, et puis le père Guy de Fatto, lui, qui est toujours vivant, qui est un prêtre du Prado. Et tous les deux ont, comment dire, inculturé le jazz en particulier, le gospel aussi, à ce qu'était la liturgie catholique. Et il y a eu un énorme travail fait par eux, justement, dans les années, on va dire, de 1965-6 jusqu'aux années 75. Il y a eu d'autres créations, mais il y a eu 10 ans avec des productions énormes, avec aussi parfois des églises qui ont été transformées par l'importance du gospel. Je pense à l'église des Jésuites de Chantilly, qui, dans les années 70, via Joachim Simas, un compositeur aussi de talent et qui a été beaucoup marqué par le gospel et le jazz, et qui rassemblait 800, 900 personnes, essentiellement des jeunes, c'était pas évident en 68, dans une église.
Faut pas oublier que le débat a commencé avec une rencontre entre Georges Brassens et le père Duval à la télé. Georges Brassens qui dit, de toute façon, depuis que vous avez abandonné le latin, c'est plus rien votre musique. Et Aimé Duval qui disait, si, enfin, il l'appelle la calotte chantante. Ouais. Et Aimé Duval, il a rempli deux Olympias. Hein.
Et bien justement, le père Duval, on l'écoute.
Qu'est-ce que j'ai dans ma tête à rêver comme ça le soir? D'un éternel jour de fête, d'un grand ciel que faudrait voir. J'ai roulé, j'ai vécu, j'ai aimé et j'ai passé aujourd'hui des moments roses, mais j'ose espérer, Seigneur, bien autre chose. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à me rêver comme ça? J'attends, cœur ouvert, rêvant, battant la semelle à la porte de ton ciel. Je crois qu'un beau jour, ton amour l'ouvrira. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir? Et voici que Jésus m'a surpris. Que fais-tu là à m'attendre, mon ami? Ton ciel se fera sur terre avec tes bras. Quelle aurore dans ma petite tête à rêver comme ça le soir d'un éternel jour de fête.
Le père Duval qui chantait pour Grand Angle sur RCF. Il était une fois en chanson avec Robert Migliorini, Olivier Landron, Alexia Rabé et Johan Frégé. En écoutant le père Duval, c'est il y a 60 ans. Il y a 60 ans qu'il chantait ça. J'ai l'impression, Alexia et Johan, que pas tout à fait avec les mêmes musiques, mais vous dites un peu les mêmes choses.
Oui, ah bah oui, c'est exactement ça. Il parle de ce grand jour de fête où l'humanité, on en rêve tous, serait en paix et voilà, serait en harmonie. Voilà, avec le créateur, avec nos frères et sœurs, donc ça me parle, oui, quand quelqu'un prend le micro pour dire ça, malgré, encore une fois, les oppositions qu'on rencontre toujours lorsqu'on se met en avant avec un message fort comme ça, j'ai toujours de l'admiration. Et puis cette époque, moi, je sais qu'il y avait des choses dures, mais quelque part, elle me fait rêver aussi, parce que je suis très respectueux des personnes âgées, et je vois qu'il y a des valeurs qu'elles ont su conserver, que notre jeunesse n'a pas forcément su conserver, donc ça m'inspire.
Alexia ?
Moi, il y a quelque chose qui me marque beaucoup dans ce type de musique, c'est la beauté du texte. Je remarque beaucoup que dans la musique religieuse, en tout cas côté protestant, il y a un peu une sorte de fashion aujourd'hui que je respecte et que j'aime aussi. Le fashion pour un certain style ou pour certains stéréotypes de musique et dans lesquels parfois, moi personnellement, j'ai du mal à trouver une beauté dans les textes en fait. Je pense qu'il y a une recherche d'une certaine simplicité mais qui du coup peut peut-être parfois un peu appauvrir en fait la musique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la musique chantée, bien que la musique instrumentale en fait soit aussi tout aussi
nourrissante
et révélatrice d'un message, alors avec un langage autre, c'est vraiment le langage de la musique tel qu'il est pour lui-même. Mais c'est vrai que ce type de musique-là, je trouve qu'il y a quand même une beauté dans la richesse des textes. Et surtout quand c'est destiné à être chanté en assemblée, je trouve ça d'autant plus beau parce que ça édifie vraiment la foi.
Robert Migliorini, effectivement, il faut travailler les textes, les chansons, la musique. C'est important.
C'est un ensemble, de toute façon, texte et musique, si ça ne marche pas ensemble, ça ne fonctionne pas. On cherche aujourd'hui des auteurs, il faut le dire. Il y a de nouveaux auteurs qui arrivent, je crois qu'il faut les laisser travailler. Il y a peut-être plus de mélodistes, musiciens que d'auteurs, mais il y a des ateliers, il y a des lieux de formation, je crois que... Et on vient de vivre quand même, Olivier sera d'accord, Landron, une période de créativité et d'auteurs assez impressionnante, en tout cas pour ce qui est de la musique liée au monde catholique, où il y a même eu trop de créativité, ce sont plein certains, mais aujourd'hui on a un véritable patrimoine et vraiment de l'écriture. Ça a vraiment été une période très 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 propice.
Olivier Landron, ces différentes périodes de création, elles se succèdent et elles perdurent ensemble ou l'une chasse l'autre ?
Pas forcément, parce que si on a parlé du grégorien au tout début de l'émission, alors évidemment, on n'a plus de création grégorienne, mais enfin, je veux dire, aujourd'hui, dans pratiquement tous les diocèses de France, à ma connaissance, vous avez un chœur de grégorien. Alors que le grégorien, c'est assez particulier, a été délaissé dans l'Église, oui, dans les années 70, et c'est revenu. Via un certain nombre effectivement de parfois des moines, des prêtres ou des laïcs qui ont souhaité continuer, parfois des associations, mais aussi le soutien du ministère de la Culture. L'État est venu plus à la rescousse du grégorien dans les années autour de 75 que l'Église elle-même.
Année 80, Maurice Fleuret qui dit alors l'Église, qu'est-ce que vous faites pour le grégorien ?
Exactement.
L'Église catholique bien sûr. Mais il n'y a pas que le grégorien, mais en tout cas ils vont inciter à.
Alors ce qu'il faut rappeler. Large patrimoine en tout cas.
Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que tous ces directeurs artistique, beaucoup de directeurs, certains directeurs de conservatoires ou de cadres du ministère de la Culture avaient été formés sur le plan de la musique dans le grégorien. Alors même si eux-mêmes n'étaient pas catholiques ou n'étaient plus catholiques, le grégorien comme musique restait une référence. Ça explique l'action de l'État français justement à partir de 1975.
On appelle donc des auteurs, des mélodistes, des chanteurs, n'hésitez pas, suivez les traces brillamment ouvertes par Alexia.
Internet favorise tout ça.
Et Johan, vous pouvez. Alors, peut-être justement, quand est-ce qu'on peut vous voir, vous écouter, vos prochains rendez-vous, Alexia ?
Alors moi, mon prochain rendez-vous parisien, en tout cas, c'est le 20 octobre au Sunset Sunside. Un haut lieu du jazz notamment. Dans la musique jazz a beaucoup contribué à véhiculer un message de foi. Moi, je pense notamment à Duke Ellington qui est quand même un des grands pionniers de la musique jazz et avec justement cette profondeur de texte qui porte beaucoup, qui a beaucoup cette marque de la foi. Moi, j'aime beaucoup. Voilà,
votre single.
Mon single, voilà, Everyday, qui est toujours disponible sur mon site internet, alexiarabi.com. Et mon prochain EP qui sortira mi-octobre et qui sera également disponible sur mon site web. Et puis après, il y a tout un ensemble, toute une
tournée. Voilà, en tout cas, toutes les informations sur le site.
Sur le site web, oui, absolument.
Johan ?
Pour ma part, donc, mon album voilà, est sorti en janvier dernier, donc il continue son chemin. Et en même temps, voilà, je prépare le deuxième album donc avec Universal, vu que j'ai signé pour 3 albums. Donc voilà, le deuxième album qui sera dans la même continuité, voilà, de partager tout simplement de l'amour avec les gens. Et pour me retrouver en concert, les concerts prochainement, c'est fin octobre à La Réunion. Voilà, il faudra se renseigner sur Internet. On peut me retrouver sur Facebook, Twitter et tout ça, tous les réseaux sociaux, où c'est moi-même qui tiens le compte, c'est pas un administrateur voilà. Qui se fait passer pour moi.
Moi aussi, c'est pareil, je réponds à tous les messages, je prends du temps, mais je réponds.
C'est vrai, je peux en attester, c'est comme ça, par les réseaux sociaux, que Alexia, j'ai pu vous inviter à l'émission, et puis on voit effectivement que vous êtes suivi par de nombreux fans, de personnes qui sont sensibles à la musique, que vous chantez l'un et l'autre. Alors on arrive au terme de l'émission, peut-être un petit mot, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de chanter, quand, enfin quel est votre rêve maintenant?
Mon rêve, ça serait de repartir à Madar et de faire un concert là-bas.
Voilà.
C'est de faire un concert, voilà, avec un concert sur la terre de mes racines, de mes origines. Bon, alors du coup, c'est en projet aussi.
Et ben, ça viendra. Johan ?
Mon rêve, c'est pas spécialement un rêve individuel, mais c'est qu'il y ait de plus en plus, voilà, d'artistes et de gens qui ressentent la nécessité d'aller chercher à l'intérieur toute la force qu'ils ont. Voilà, on est dans des temps qui sont pas forcément évidents. Et voilà, on a beaucoup de ressources encore inexplorées à l'intérieur. Donc mon rêve, il est là, en fait.
Faites un concert ensemble.
Absolument.
Ben voilà, Robert,
avec grand plaisir aussi.
Organise
un
live sur RCF. Merci, Christophe.
Voilà, on le fera en live.
Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je vous remercie vraiment de votre invitation. C'est vraiment super de pouvoir parler de sa foi comme ça, parce que c'est pas sur tous les supports qu'on peut le faire, parce que voilà, il y a une certaine diplomatie à avoir selon là où on est, et ici, on peut parler plus librement.
Et ben tant mieux. En tout cas, merci d'être venu. Merci à Robert Migliorini aussi et Olivier Landron. Ben, pour prolonger l'émission, n'hésitez pas à lire le livre d'Olivier Landron, Le catholicisme français au rythme du chant et de la musique, paru aux éditions Parole et Silence. Merci à Pierre-Henri Paget, qui était à la régie, qui a eu envie de chanter aujourd'hui. À Florence de Saint-Preux, qui m'a aidé à préparer cette émission. Et puis juste une petite citation. Pendant le chant, on ne vieillit pas. C'est le poète Gilvic qui dit ça. Eh bien, je crois qu'on a pris une cure de jouvence et de jeunesse aujourd'hui. Alors, Grand Angle, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des bonnes résolutions de la rentrée. Exceptionnellement, on va laisser tomber les génériques et puis on va écouter Johan Frégé qui nous chante que le bonheur est un dieu très ordinaire.
Les frissons qui passent, les plaisirs qui restent, les instants de grâce, les amours qui naissent. Le bonheur est un dieu très ordinaire. Les rideaux de pluie, les forêts au loin, le goût sucré d'un fruit, les coups de chemin, l'ami qu'on retrouve, le sourire du destin, l'avenir qui s'ouvre, ton regard dans le mien. Oh, 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 oh. Tout est tout et tout n'est rien. Tout est sacré. Tout